Les coqs chantent et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'agriculture sans labour. L'agriculture sans labour et sans travail du sol, ça existe et c'est même recommandé. Au point que ce mode de production agricole occupe aujourd'hui 150 millions d'hectares de culture dans le monde, ce qui représente 300 millions de terrains de football.
Madame, monsieur, le départ de notre train à destination de l'île Flandre est imminent. Veuillez prendre garde à la fermeture des portes.
L'agriculture sans labour, les scientifiques et les techniciens appellent cela l'agriculture de conservation des sols. Et il y a en France des gens qui se battent pour que cette troisième voie de l'agriculture soit reconnue. Ce regroupement de producteurs qui recommande l'agriculture de conservation du sol, c'est l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, en abrégé APAD. Nous sommes allés à leur Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le mardi 5 février dernier à l'Institut technique de Guénec à Templeuve, à 30 minutes de la ville de Lille par train.
Bon, est-ce que vous allez bien déjà?
Avant d'aller plus avant, il est important de savoir ce que c'est que cette agriculture de conservation des sols. Pour cela, nous avons discuté avec François Mandin, agriculteur lui-même, nouveau président de l'Association pour la promotion d'une agriculture durable. Agriculteur à Luçon, en Vendée, dans le Marais Poitevin, François Mandin gère depuis 1987 une exploitation agricole de 220 hectares en polyculture et prairies de marais. Il est engagé depuis 20 ans dans le mouvement de l'agriculture de conservation des sols.
Je produis du blé dur, du blé tendre, du maïs, de l'orge, du tournesol, du colza, de la févrole, de la luzerne et tout un tas d'espèces qui me servent de couvert.
Alors avant de parler de l'APAD, on va parler de ce qui fonde votre action, l'agriculture de conservation des sols. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, l'agriculture de conservation des sols, pour nous, c'est une voie de l'agriculture durable qui met au centre le sol comme étant l'élément central à la fois pour produire de la matière première, produire de l'énergie, mais aussi pour protéger l'environnement. Et pour obtenir ces résultats, on applique trois principes qui sont une perturbation minimum du sol, donc pas de travail du sol.
Pas de labour, pas de...
Pas de labour, pas de herse. On ne travaille que la ligne de semis pour pouvoir placer la graine dans des bonnes conditions. On garde le sol non travaillé, on le protège par une diversité d'espèces et de cultures et jamais de terrain nu. Toujours un terrain protégé comme fait la nature.
Monsieur le Président, je veux voir l'idée. C'est-à-dire que je passe le tracteur, je laboure, je passe le tracteur pour semer, je passe le tracteur pour... Enfin, à chaque fois, je passe une machine et à chaque fois, je dégrade mon sol.
Eh bien là, on a l'avantage, c'est qu'on ne passe qu'une fois. Je passe mon tracteur avec mon semoir et je sème.
Vous dites derrière... que 30% des sols dans le monde sont dégradés.
Dans le monde, c'est un problème très important et la FAO l'a identifié en expliquant que les évolutions climatiques font qu'on accentue les phénomènes extrêmes. Beaucoup de pluie, des orages importants et on voit très très bien que la terre s'en va dans l'eau.
Le tout dans cette démarche repose sur ce que les scientifiques appellent un sol vivant. Tentons ici de résumer. Un sol vivant, c'est un sol dans lequel sont présents des êtres vivants, des bactéries, des champignons, des vers de terre. 80% de la biomasse vivante du globe se trouve dans le sol. Plusieurs milliers d'espèces animales et plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'espèces bactériennes et de champignons. Ce qu'on a appelé des micro-organismes représente des enjeux agronomiques majeurs. Il se trouve que le labour, en plus de fragiliser le sol, vient perturber ce fonctionnement organique du sol. À présent, faisons connaissance avec l'Association pour la promotion d'une agriculture durable.
Alors l'APAD est née il y a plus de 20 ans. Plus de 1000 agriculteurs sont adhérents. L'agriculture de conservation des sols aujourd'hui est reconnue au niveau du ministère de l'Agriculture français. Au niveau européen, on a réussi également à faire reconnaître que la dimension sol est un élément très important de la transition écologique. Donc notre association aujourd'hui fédère dans 10 régions françaises 10 associations régionales qui travaillent à la fois faire connaître et reconnaître cette agriculture sur les territoires, mais aussi de pouvoir échanger d'agriculteur à agriculteur les meilleures pratiques, parce que cette agriculture, c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment une agriculture en mouvement qui demande des échanges permanents entre les agriculteurs, entre ceux qui font et les acteurs de la recherche, ceux qui cherchent, qui mettent à disposition des outils, par exemple les plantes, les semences, tout ça. Il y a vraiment un gros travail de recherche qui est en route. Et la PAD a un petit peu la prétention d'être un lieu où à la fois on apprend ensemble, on partage ensemble et on fait connaître ensemble.
Vous dites même que prendre le risque de faire une erreur, c'est une école.
Ah, c'est même clairement l'école la plus performante pour réussir. Et l'enjeu collectif, c'est de diminuer la hauteur du risque tout en en prenant. C'est ça l'enjeu collectif.
Monsieur le Président, je dois quand même vous dire que l'agriculture, c'est depuis des siècles qu'on nous a appris les mêmes gestes. Changer n'est pas facile.
C'est même le problème numéro un, c'est une dimension sociologique. Expliquer que travailler le sol, il faut modifier ce travail du sol autour de cette idée qu'on doit le travailler d'une façon complètement différente. Ça demande à changer l'état d'esprit des agriculteurs, ça demande à changer la façon dont on approche son premier métier. Et c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est que ce n'est pas simplement une petite évolution technique, c'est une vraie révolution humaine, individuelle, sociologique pour nous les agriculteurs français, mais également dans le monde entier. Et je suis sûr que nos collègues partout dans les territoires d'outre-mer, ils ont les mêmes difficultés et qu'ils ont besoin eux aussi d'adapter leurs pratiques à ces contraintes environnementales qui sont évidemment essentielles pour l'avenir de l'agriculture.
Alors aujourd'hui, c'est l'AG annuel, c'est une façon de faire l'état des lieux.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on réunit tous les agriculteurs qui le souhaitent de la France entière autour de cette journée avec un thème qui est la prise de risque, l'innovation, comment on la gère et quels sont nos outils à notre service. Mais c'est aussi un temps fort de notre association de se connaître, se reconnaître, se rencontrer et mettre un peu sur la table tous les dossiers que l'on porte au niveau national ou international, parce que notre association est fédérée au niveau européen au sein d'une organisation qui s'appelle l'ECAF, mais on est également fédéré au niveau mondial dans le GECAN, qui est une organisation de chercheurs et d'agriculteurs qui travaille à la reconnaissance et à l'amélioration de cette pratique.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Dans cette affaire, rien ne vaut le témoignage des producteurs eux-mêmes. Le premier que nous rencontrons se nomme Christian Marin, agriculteur en Charente, membre de la PAD et vice-président de la PAD Centre-Atlantique.
J'ai 54 ans, je fais des céréales, voilà, et je suis en agriculture conservation depuis 2001.
Qu'est-ce qui vous a fait changer ?
Les coûts de production et puis surtout l'agronomie. Un jour, j'ai vu M. Bourguignon et ça m'a fait ouvrir les yeux et j'ai changé à ce moment-là.
M. Bourguignon, c'est qui ?
C'est un microbiologiste français, ancien de l'INRA, et qui fait voir à beaucoup de gens que les sols vont mal. C'est en 2001, dans les vignes, dans le secteur de Cognac. Moi, je travaillais beaucoup les sols, et puis ils se dégradaient. Et puis les gens ne travaillaient pas à côté, et ça ne dégradait pas, au contraire. Il y avait de la vie. Et donc, c'est là que ça m'a fait basculer.
Ah, donc, il y a eu ce choc-là, dans la vigne que vous avez décrite. On vous a parlé de la vie qu'il y avait dans le sol, que vous avez contribué à dégrader chez vous.
Oui.
Alors, vous avez décidé de changer, mais en pratique, comment ça s'est passé ?
Ben, tout d'abord, j'ai commencé à mettre du végétal. C'est-à-dire qu'il faut donner à manger à nos vers de terre, à notre vie microbienne. Et en même temps, j'ai modifié mes rotations, changé de plantes différentes, et surtout, avoir un semoir qui ne casse pas, qui ne détruit pas le sol. Voilà.
Ce semoir, il est fait comment ? Moi, je connais rien, vous pouvez me le décrire ?
Oh ben, c'est tout bête, hein. C'est un disque qui ouvre et puis il y a des disques semeurs derrière, hein. C'est tout bête. C'est surtout que ça passait dans des masses de végétaux importantes parce qu'il faut beaucoup donner de carbone, de masse, matière organique au sol, voilà.
Ah, ça, c'est le principe qui dit qu'il ne faut pas laisser le sol nu. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme couvert ?
Ben, j'ai mis surtout des légumineuses au démarrage. Ben, de toute façon, ce que je fais, c'est en définitive copier la nature, puisque quand vous allez dans les bois, dans la forêt, vous ne voyez jamais la terre nue. Elle est toujours protégée par la matière organique, ce sont les feuilles, les branches qui tombent. Donc il faut faire la même chose chez nous. Donc nous, le problème, c'est après les récoltes des céréales, il faut, durant l'été, couvrir. Et donc on met des plantes, et en principe, ce sont les légumineuses. L'azote des sols est parti avec l'eau, donc on en a plus, il faut recharger ça. Et pour dégrader le carbone, il faut de l'azote, donc on met des légumineuses en particulier.
la légumineuse a cette particularité de pouvoir produire l'azote dans le sol. Et cet azote nourrit le sol qui nourrit les plantes.
C'est tout un cycle, c'est le cycle de la vie, tout à fait, hein. C'est la biologie et c'est ça. Avec en plus découvert comme ça qui donne de l'azote, il y a plein d'insectes qui sont protégés, qui ont à manger, et les oiseaux reviennent. Et bien nous, il y a des fleurs durant l'automne, et puis il y a des abeilles, il n'y a aucun souci, quoi.
Mais si on a basculé dans cette production intensive, et c'est parce qu'il fallait rentabiliser ce qu'on produisait. Alors comment faire pour rentabiliser votre travail avec cette agriculture de conservation des sols?
Bien tout d'abord, j'ai beaucoup moins d'investissement. Ça, c'est déjà primordial. J'investis dans le végétal. Et à l'heure actuelle, on s'est aperçu des choses, parce que je travaille avec un chercheur qui est monsieur Jean-Pierre Sartou. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est plus un sol est vivant, plus on lui donne à manger, plus il est vivant. Et plus ce que l'on retire, c'est-à-dire la nourriture, est de bonne qualité. Un sol vivant, un sol riche, qui travaille, qui a de la vie microbienne, qui a de la vie biologique, hein, il donne de la bonne nourriture. Et ça, on est en train de le démontrer tous les jours. Et ce qui est le plus important, un sol en bonne santé donnera des aliments en bonne santé et l'homme sera en bonne santé.
Mais justement, ce travail d'agriculture de conservation des sols, vous êtes obligé d'apprendre en marchant.
Ah, tout à fait. Alors ça, c'est ce qui est le pire de tout, parce qu'on a été formatés à apprendre à écouter des recettes toutes faites en niveau agricole. Je vois mes collègues, c'est comme ça, mais nous, on apprend. Tous les jours, on apprend, parce que déjà, le changement climatique, on le voit, les saisons sont différentes, et il faut s'adapter. Et on n'a pas le droit à l'erreur.
D'abord, il faut apprendre à connaître son sol, sa terre.
Voilà, tout à fait. C'est ça, il faut connaître, il faut apprendre, et c'est avec d'autres agriculteurs qu'on se forme. C'est pas tout seul en son coin.
Donc, avec vos collègues de l'APAD régional, vous êtes obligés de travailler ensemble.
Tout à fait. Tout à fait. On fait des groupes, on fait des formations, on s'aide, on fait des réunions techniques, voilà.
Donc, quand vous commencez à basculer dans ce changement-là, vos voisins qui continuent dans le conventionnel, et ils vous regardent...
Alors, j'ai une bonne anecdote par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au démarrage, je me suis fait critiquer par ma coopérative qui me prend mes céréales, puisqu'il paraît que le semi-direct était... il y avait plein de mycotoxines dans les aliments. Et puis un jour, ils ont fait des analyses. Et puis, par hasard, il n'y en avait pas. Et puis, depuis trois ans maintenant, ils me notent... ils me mettent en référence parce que j'ai énormément de qualité de mes blés. Je fais énormément de protéines. Donc, une meilleure valorisation. Et c'est tout le contraire qui revient maintenant. Je suis mis en avant par rapport à ces qualités-là.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Quand on commence un travail de ce type, les écueils sont nombreux. Il y a un problème d'encadrement technique, vu que les techniciens de terrain ont tous été formatés pour l'agriculture conventionnelle, ce qui a conduit les groupements régionaux de l'APAD à générer un encadrement à leur niveau, les plus anciens prenant en charge les jeunes débutants. Notre deuxième témoin se nomme Jackie Berlin, agriculteur à Saint-Mandé-de-Frégnaux, vice-président de la Fédération départementale des groupes d'études et de développement agricole de Vendée. Depuis de nombreuses années, il pratique ce qu'on appelle une agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire les trois piliers de l'agriculture de conservation des sols, l'arrêt du travail du sol, la mise en place d'une couverture permanente des sols, le maintien et le développement de la biodiversité végétale et animale.
Alors, je produis des céréales essentiellement, j'ai un atelier porc aussi, donc j'ai un atelier porc de 1600 places d'engraissement uniquement. Donc j'ai 76 hectares, mais j'en récolte réellement 100.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait changer, qu'est-ce qui vous a fait passer du conventionnel à l'ACS?
Ah, quel est le moment de la décision? En fait, ça date d'il y a à peu près 18 ans. À l'époque, je labourais comme tous mes copains. Et j'avais des problèmes de terre collante, je sortais des pierres, il fallait broyer les pierres tous les ans, c'était un travail harassant, coûteux. Et moi, l'entrée vers ces techniques, elle était essentiellement matérielle.
Ça, c'est la texture du sol qui vous imposait ça?
Oui, parce que j'ai des sols très superficiels, avec beaucoup de cailloux. Et je voyais pas l'intérêt de retourner le sol, parce qu'en fait, on travaillait pas le sol très bas, 15-20 cm maximum. Et il y a eu un matériel qui est sorti un jour, un outil à dents, qui faisait le même travail que la charrue. Et ça a été le déclic, le déclencheur. Mais après, j'ai compris vraiment l'agriculture de conservation des sols, allez, 5-6 ans plus tard, où là, c'est un livre d'un Chilien, Carlos Crovetto Lamarca, qui a écrit un livre, Les fondements de l'agriculture durable. Donc il a expliqué sa situation. Alors évidemment, il ne faut pas la transposer à chez soi. Hein. C'est le Chili, la France, c'est pas la même chose. Mais j'ai compris les fondamentaux. Et de là est venu mon basculement vers vraiment l'agriculture de conservation dans ces trois piliers. Pour le dire autrement, le fait d'arrêter de travailler le sol, il faut quand même que le sol soit structuré, mais par autre chose. C'est-à-dire par du vivant. Ça veut dire que derrière, on remplace la ferraille par de la vie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On imite ce qui se passe dans la forêt.
Ah, c'est-à-dire que les vers de terre, tous ceux qui sont dans le sol travaillent pour vous.
Voilà, ils travaillent pour nous gratuitement, ils n'ont pas de syndicat, ça nous embête pas.
C'est ces vers de terre-là qui travaillent.
Alors les vers de terre sont des organismes qui ne consomment que les tissus morts, tous les résidus végétaux. Donc on est tranquille, ils viennent jamais manger les blés, maïs, etc. tant que c'est vivant. Et ces vers de terre, c'est une communauté biologique énorme. Hein. Il y a des gros, des petits, je passe les détails. Et ils circulent dans le sol. Mais ils circulent en digérant la terre et en mélangeant les résidus végétaux avec la terre. Mais pour avoir beaucoup de vers de terre, il faut absolument qu'ils aient à manger. Donc le premier grand principe de l'agriculture de conservation, si on veut le traduire en fait simple, nourris ton sol.
Ah, si j'ai bien compris dans le conventionnel, j'ai tout faux, quoi. En fait, d'abord, j'ai labouré, je mets des produits chimiques.
Voilà.
Et quand je récolte, je prends tout. Je prends les graines, la paille, tout.
Tout faux. Si vous regardez la nature, donc la forêt, les prairies, jamais personne ne la laboure. La forêt n'est jamais labourée et pourtant elle produit beaucoup. On y met pas d'engrais et pourtant elle produit beaucoup. Alors c'est quoi les codes? C'est simple, c'est un recyclage permanent. Le sol est une machine à recycler. La plante, c'est une machine à transformer le carbone et l'énergie solaire en biomasse. Une partie nourrit les peuples, les animaux, puis une autre partie retourne au sol, qui alimente la pompe biologique. Cette activité biologique transforme les résidus carbonés élaborés que sont les feuilles, etc., les transforme en éléments simples qui vont être reconsommés par les plantes. L'agriculteur, il est issu d'une histoire familiale, il est issu d'une histoire d'apprentissage, d'école, où on lui a appris d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ce qu'on fait là, c'est qu'on bouleverse, on perturbe tous les acquis qu'on a eus. C'est pour ça qu'on est un peu rebelle, c'est qu'on ose aussi être rebelle vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on a appris.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que son premier capital, c'est quand même le sol.
Voilà, c'est ça. Le premier capital de l'agriculteur, c'est le sol, mais c'est aussi le premier capital de la société, de l'humanité. C'est les 30 cm de couche arable, celles qu'explorées par les racines et plantes, sont la survie de l'humanité. C'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine à partager et à préserver.
Je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Nous étions à l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable, en abrégé APAD, qui s'est tenue le mardi 5 février dernier à l'Institut Technique de Guénec à Templeuve, à 30 minutes de la ville de Lille par train. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Si vous voulez écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.